Le soir, il écrivit au chef de la sûreté une longue lettre où il rapportait fidèlement les résultats de son enquête et livrait le secret de l'aiguille creuse. Il demandait du secours pour achever l'œuvre et donner son adresse. En attendant la réponse, il passa deux nuits consécutives dans la chambre des demoiselles. Il les passa transi de peur, les nerfs secoués d'une épouvante qu'exaspéraient les bruits nocturnes. Il croyait à tout instant voir des ombres qui s'avançaient vers lui. On savait sa présence dans la grotte. On venait, on l'égorgeait. Son regard pourtant éperdument fixe, soutenu par toute sa volonté, s'accrochait au pan du mur. La première nuit, rien ne bougea. Mais la seconde, à la clarté des étoiles et d'un mince croissant de lune, il vit la porte s'ouvrir et des silhouettes qui émergeaient des ténèbres. Il en compta deux, trois, quatre, cinq. Il lui sembla que ces cinq hommes portaient des fardeaux assez volumineux. Ils coupèrent droit par les champs jusqu'à la route du Havre et il discerna le bruit d'une automobile qui s'éloignait. Il revint sur ses pas. Il côtoya une grande ferme. Mais au détour du chemin qu'il abordait, il n'eut que le temps d'escalader un talus et de se dissimuler derrière des arbres. Des hommes encore passèrent. Quatre, cinq. Et tous chargés de paquets. Et deux minutes après, une autre automobile gronda. Cette fois, il n'eut pas la force de retourner à son poste et il rentra se coucher. À son réveil, le garçon d'hôtel lui apporta une lettre. Il la décacheta. C'était la carte de Ganimard. « Enfin !» s'écria Beautrelet, qui sentait vraiment, après une campagne aussi dure, le besoin d'un secours. Il se précipita, les mains tendues. Ganimard les prit, le contempla un moment et lui dit
« Vous êtes un rude type, mon garçon. »«
Bah, le hasard m'a servi. »
« Il n'y a pas de hasard avec lui, »
affirma l'inspecteur qui parlait toujours de Lupin d'un air solennel et sans prononcer son nom. Il s'assit.
« Alors, nous le tenons ? » ?»«
Comme on l'a déjà tenu plus de 20 fois.
» Oui, mais aujourd'hui... »
« Aujourd'hui, en effet, le cas diffère. Nous connaissons sa retraite, son château fort, ce qui fait, somme toute, que Lupin est Lupin. Il peut s'échapper. » L'aiguille d'Étretat ne le peut pas.
Pourquoi supposez-vous qu'il s'échappera ?
Demanda Ganimard inquiet.
Pourquoi supposez-vous qu'il ait besoin de s'échapper ? Rien ne prouve qu'il soit dans l'aiguille actuellement. Cette nuit, 11 de ses complices en sont sortis. Il était peut-être l'un de ces 11.
Ganimard réfléchit.
Vous avez raison. L'essentiel, c'est l'aiguille creuse. Pour le reste, espérons que la chance nous favorisera. Et maintenant, causons. »
Il prit de nouveau sa voix grave, son air d'importance convaincu, et prononça
« Mon cher Beautrelet, j'ai ordre de vous recommander à propos de cette affaire la discrétion la plus absolue. »
« Ordre de qui ? Du préfet de police ?»«
Plus haut. »
« Le président du conseil ?»
« Plus haut !»«
Bigre !»«
Beautrelet, j'arrive de l'Élysée. On considère cette affaire comme un secret d'État d'une extrême gravité. Il y a des raisons sérieuses pour que l'on tienne ignorée cette citadelle invisible. Des raisons stratégiques, surtout. Cela peut devenir un centre de ravitaillement, un magasin de poudre nouvelle, de projectiles récemment inventés, que sais-je. L'arsenal inconnu de la France.
Mais comment espère-t-on garder un tel secret ? Jadis, un seul homme le détenait, le roi. Aujourd'hui, nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, sans compter la bande à Lupin.
Quand on ne gagnerait que 10 ans, que 5 ans de silence, ces 5 années peuvent être le salut.
Mais pour s'emparer de cette citadelle, de ce futur arsenal, il faut bien l'attaquer. Il faut bien en déloger Lupin, et tout cela ne se fait pas sans bruit.
Évidemment, on devinera quelque chose, mais on ne saura pas. Et puis quoi ? Essayons !
Soit, quel est votre plan ?
En deux mots, voilà. Tout d'abord, vous n'êtes pas Isidore Beautrelet, et il n'est pas question non plus d'Arsène Lupin. Vous êtes et vous restez un gamin d'Étretat, lequel, en flânant, a surpris des individus qui sortaient d'un souterrain. Vous supposez, n'est-ce pas, l'existence d'un escalier qui perce la falaise du haut en bas?
Oui, il y a plusieurs de ces escaliers le long de la côte. Tenez, tout près, on m'a signalé en face de Bénouville l'escalier du curé, connu de tous les baigneurs. Et je ne parle pas des trois ou quatre tunnels destinés aux pêcheurs.
Donc, la moitié de mes hommes et moi, nous marchons guidés par vous. J'entre seul ou accompagné, ceci est à voir. Toujours est-il que l'attaque a lieu par là. Si Lupin n'est pas dans l'aiguille, nous établissons une souricière, où, un jour ou l'autre, il se fera pincer. S'il est là,
monsieur Ganimard, il s'enfuira de l'aiguille par la face postérieure, celle qui regarde la mer.
En ce cas, il sera immédiatement arrêté par l'autre moitié de mes hommes.
Oui, mais si, comme je le suppose, vous avez choisi le moment où la mer s'est retirée, laissant à découvert la base de l'aiguille, la chasse sera publique, puisqu'elle aura lieu devant tous les pêcheurs et pêcheuses de moules, de crevettes et de coquillages qui pullulent sur les rochers avoisinants.
C'est pourquoi je choisirai justement l'heure où la mer sera pleine.
En ce cas, il s'enfuira sur une barque.
Et comme j'aurai là, moi, une douzaine de barques de pêche, dont chacune sera commandée par un de mes hommes, il sera cueilli.
S'il ne passe pas entre votre douzaine de barques, ainsi qu'un poisson à travers les mailles.
Soit, mais alors je le coule à fond.
Fichtre, vous avez donc des canons?
Mon Dieu, oui. Il y a en ce moment un torpilleur au Havre. Sur un coup de téléphone de moi, il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille.
Ce que Lupin sera fier, un torpilleur. Allons, je vois, monsieur Ganimard, que vous avez tout prévu. Il n'y a plus qu'à marcher. Quand donnons-nous l'assaut?
Demain.
La nuit?
En plein jour, à marée montante, sur le coup de 10 heures.
Parfait. Sous ses apparences de gaieté, Beautrelet cachait une véritable angoisse. Jusqu'au lendemain, il ne dormit pas, agitant tour à tour les plans les plus impraticables. Ganimard l'avait quitté pour se rendre à une dizaine de kilomètres d'Étretat, à Yport, où par prudence il avait donné rendez-vous à ses hommes et où il fréta 12 barques de pêche, en vue, soi-disant, de sondage le long de la côte. À 9h15, escorté de 12 gaillards solides, il rencontrait Isidore au bas du chemin qui monte sur la falaise. À 10 heures précises, ils arrivaient devant le pan de mur. Et c'était l'instant décisif.
« Qu'est-ce que tu as donc, Beautrelet? Tu es vert !»
ricana Ganimard, tutoyant le jeune homme en manière de moquerie. « Et toi, monsieur Ganimard, on croirait que ta dernière heure est venue ?» Ils durent s'asseoir et Ganimard avala quelques gorgées de rhum.
Ah, ce n'est pas le trac, mais sapristi, quelle émotion! Chaque fois que je dois le pincer, ça me prend comme ça aux entrailles. Un peu de rhum?
Non.
Et si vous restez en route?
C'est que je serai mort.
Bigre! Enfin, nous verrons. Et maintenant, ouvrez! Pas de danger d'être vu, hein?
Non, l'aiguille est plus basse que la falaise, et en outre, nous sommes dans un repli de terrain. Beautrelet s'approcha du mur et pesa sur la brique. Le déclenchement se produisit, et l'entrée du souterrain apparut. À la lueur des lanternes qu'ils allumèrent, ils virent qu'il était percé en forme de voûte, et que cette voûte, ainsi d'ailleurs que le sol lui-même, était entièrement recouverte de briques. Ils marchèrent pendant quelques secondes, et tout de suite un escalier se présenta. Beautrelet compta 45 marches, marches en briques, mais que l'action lente des pas avait affaissées par le milieu.
« Sacré nom !»
jura Ganimard qui tenait la tête et qui s'arrêta subitement comme s'il avait heurté quelque chose.
« Qu'y a-t-il ? » Une porte. Bigre.
et pas commode à démolir. Un bloc de fer, tout simplement.
Nous sommes fichus. Il n'y a même pas de serrure.
Justement, c'est ce qui me donne de l'espoir.
Et pourquoi ?
Une porte est faite pour s'ouvrir. Et si celle-là n'a pas de serrure, c'est qu'il y a un secret pour l'ouvrir.
Et comme nous ne connaissons pas ce secret,
je vais le connaître.
Par quel moyen ?
Par le moyen du document. La quatrième ligne n'a pas d'autre raison que de résoudre les difficultés au moment où elle s'offre. Et la solution est relativement facile, puisqu'elle est inscrite, non pour dérouter, mais pour aider ceux qui la cherchent.
Relativement facile ? Je ne suis pas de votre avis !
S'écria Ganimard, qui avait replié le document.
Le nombre 44 est un triangle marqué d'un point à gauche. C'est plutôt obscur.
Mais non, mais non ! Examinez la porte. Vous verrez qu'elle est renforcée aux quatre coins de plaques de fer en forme de triangle, et que ces plaques sont maintenues par de gros clous. Prenez la plaque de gauche, tout en bas, et faites jouer le clou qui est à l'angle. Il y a 9 chances contre 1 pour que nous tombions juste.
Vous êtes tombé sur la 10e,
dit Ganimard après avoir essayé.
Alors, c'est que le chiffre 44...
À voix basse, tout en réfléchissant, Beautrelet continua.
Voyons, Ganimard et moi, nous sommes là, tous les deux, à la dernière marche de l'escalier. Il y en a 45. Pourquoi 45, tandis que le chiffre du document est 44? Coïncidence? Non, dans toute cette affaire, il n'y a jamais eu de coïncidence, du moins involontaire. Ganimard, ayez la bonté de remonter d'une marche. C'est cela, ne quittez pas cette 44e marche. Et maintenant, je fais jouer le clou de fer et la bobinette chérera, sans quoi j'y perds mon latin.
La lourde porte, en effet, tourna sur ses gonds. Une caverne assez spacieuse s'offrit à leur regard.
Nous devons être exactement sous le fort de Fréfossé. Maintenant, les couches de terre sont traversées. C'est fini de la brique. Nous sommes en pleine masse calcaire.
La salle était confusément éclairée par un jet de lumière qui provenait de l'autre extrémité. En s'approchant, ils virent que c'était une fissure de la falaise, pratiquée dans un ressaut de la paroi, et qui formait comme une sorte d'observatoire. En face d'eux, à 50 mètres, surgissait des flots le bloc impressionnant de l'aiguille. À droite, tout près, c'était l'arc-boutant de la porte d'aval, et à gauche, très loin, fermant la courbe harmonieuse d'une vaste crique, une autre arche, plus imposante encore, se découpait dans la falaise. La manne-porte, magna porta, si grande qu'un navire y aurait trouvé passage, ses mâts dressés et toute voile dehors. Au fond, partout la mer.
Je ne vois pas notre flottille.
Impossible! La porte d'aval nous cache toute la côte d'Étretat et d'Yport. Mais tenez, là-bas, au large, cette ligne noire aura de l'eau.
Eh bien?
Eh bien, c'est notre flotte de guerre, le torpilleur numéro 25. Avec ça, Lupin peut s'évader s'il veut connaître les paysages sous-marins.
Une rampe marquait l'orifice de l'escalier, près de la fissure. Ils s'y engagèrent. De temps à autre, une petite fenêtre trouait la paroi, et chaque fois, ils apercevaient l'aiguille, dont la masse leur semblait de plus en plus colossale. Un peu avant d'arriver au niveau de l'eau, les fenêtres cessèrent, et ce fut l'obscurité. Isidore comptait les marches à haute voix. À la 358e, ils débouchèrent dans un couloir plus large que barrait encore une porte en fer, renforcée de plaques et de clous.
« Nous connaissons ça. Le document nous donne le nombre 357 et un triangle pointé à droite. Nous n'avons qu'à recommencer l'opération. »
La seconde porte obéit comme la première. Un long, très long tunnel se présenta, éclairé de place en place par la lueur vive des lanternes suspendues à la voûte. Les murs suintaient et des gouttes d'eau tombaient sur le sol, de sorte que, d'un bout à l'autre, on avait disposé, pour faciliter la marche, un véritable trottoir en planches.
Nous passons sous la mer. Vous venez, Ganimard ?
L'inspecteur s'aventura dans le tunnel, suivit la passerelle en bois et s'arrêta devant une lanterne qu'il décrocha.
Les ustensiles datent peut-être du Moyen-Âge, mais le mode d'éclairage est moderne. Ces messieurs s'éclairent avec des manchons à incandescence.
Il continua son chemin. Le tunnel aboutissait à une autre grotte de proportions plus spacieuses, où l'on apercevait en face les premières marches d'un escalier qui montait.
Maintenant, c'est l'ascension de l'aiguille qui commence. Ça devient plus grave.
Patron, un autre escalier, là, sur la gauche.
Et tout de suite après, ils en découvrirent un troisième, sur la droite.
Fichtre, la situation se complique. Si nous passons par ici, ils fileront par là, eux.
Séparons-nous.
Non, ce serait nous affaiblir. Il est préférable que l'un de nous parte en éclaireur.
Moi, si vous voulez.
Vous, votre les soit. Je resterai avec mes hommes. Comme ça, rien à craindre. Il peut y avoir d'autres chemins que celui que nous avons suivi dans la falaise, et plusieurs chemins aussi à travers l'aiguille, mais pour sûr, entre la falaise et l'aiguille, il n'y a pas d'autre communication que le tunnel. Donc, il faut qu'on passe par cette grotte. Donc, je m'y installe jusqu'à votre retour. Allez, Beautrelet, et de la prudence. À la moindre alerte, rappliquez.
Vivement, Isidore disparut par l'escalier du milieu. À la 30e marche, une porte, une véritable porte en bois, l'arrêta. Il saisit le bouton de la serrure et tourna. Elle n'était pas fermée. Il entra dans une salle qui lui sembla très basse, tellement elle était immense. Éclairée par de fortes lampes, soutenues par des piliers trapus, entre lesquels s'ouvraient de profondes perspectives, elle devait presque avoir les mêmes dimensions que l'aiguille. Des caisses l'encombraient, et une multitude d'objets, des meubles, des sièges, des bahuts, des crédences, des coffrets, tout un fouillis comme on en voit au sous-sol des marchands d'antiquités. À sa droite et à sa gauche, Beautrelet aperçut l'orifice de deux escaliers, les mêmes sans doute que ceux qui partaient de la grotte inférieure. Il eut donc pu redescendre et avertir Ganimard. Mais, en face de lui, un nouvel escalier montait, et il eut la curiosité de poursuivre seul ses investigations. 30 marches encore. Une porte, puis une salle un peu moins vaste, sembla-t-il à Beautrelet. Et toujours, en face, un escalier qui montait. 30 marches encore, une porte, une salle plus petite. Beautrelet comprit le plan des travaux exécutés à l'intérieur de l'aiguille. C'était une série de salles superposées les unes au-dessus des autres et par conséquent de plus en plus restreintes. Toutes servaient de magasins. À la 4e, il n'y avait plus de lampes. Un peu de jour filtrait par des fissures et Beautrelet aperçut la mer à une dizaine de mètres au-dessous de lui. À ce moment, il se sentit si éloigné de Ganimard qu'une certaine angoisse commença à l'envahir, et il lui fallut dominer ses nerfs pour ne pas se sauver à toutes jambes. Aucun danger ne le menaçait cependant, et même autour de lui, le silence était tel qu'il se demandait si l'aiguille entière n'avait pas été abandonnée par Lupin et ses complices. « Au prochain étage, je m'arrêterai. 30 marches, toujours. Puis une porte, celle-ci plus légère, d'aspect plus moderne. » Il la poussa doucement, tout prêt à la fuite. Personne. Mais la salle différait des autres comme destination. Au mur, des tapisseries. Sur le sol, des tapis. Deux dressoirs magnifiques se faisaient vis-à-vis, chargés d'orfèvrerie. Les petites fenêtres pratiquées dans les fentes étroites et profondes étaient garnies de vitres. Au milieu de la pièce, une table richement servie avec une nappe en dentelle, des compotiers de fruits et de gâteaux, du champagne en carafe et des fleurs, des amoncellements de fleurs. Autour de la table, trois couverts. Beautrelet s'approcha. Sur les serviettes, il y avait des cartes avec le nom des convives. Il lut d'abord
Arsène Lupin. En face, Madame Arsène Lupin. Il prit la troisième carte et tressauta d'étonnement. Celle-là portait son nom, Isidore Beautrelet.